Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, je vais vous raconter en deux épisodes, c'est la première fois que je fais ça, une vie absolument exceptionnelle, la vie de Michel Vaujour qui est là devant moi et que je salue. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous avez été Michel au siècle dernier, dans les années 70 et 80, l'un des gangsters les plus célèbres de France. Vous avez passé 27 années en prison, dont 17 en quartier de haute sécurité, les fameux QHS. Vous vous êtes évadé 5 fois de prison. Et vous racontez tout ça dans un livre formidable, formidable, vraiment, qui paraît chez XO, L'amour m'a sauvé du naufrage. Alors au début, je pensais vous raconter votre histoire en une seule émission, et puis je me suis rendu compte que c'était pas possible, il en fallait au moins deux. Et donc aujourd'hui, le premier épisode, une chose que je veux vous dire avant de commencer. En vérité, je n'ai pas d'admiration pour ce que vous avez fait. Il y a beaucoup de violence dans ce que vous avez fait, malgré tout. Quoique les 5 évasions, tout de même, j'ai un poil d'admiration pour au moins 3 d'entre elles. En revanche, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection, sans vous connaître du tout, hein, mais à la lecture de votre livre, pour l'homme que vous êtes. Voilà, vous êtes un homme libre, hein, ce qui est assez paradoxal pour quelqu'un qui a passé 27 années en cabane. Voici donc le premier épisode qui va nous amener jusqu'au lendemain de votre 3e évasion. Il a été réalisé comme il se doit par Céline Lebras et on débrief tout ça après.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Derrière le gros dur, derrière le fier à bras, toujours chercher la fêlure, la blessure, toujours. Et en général, la fêlure, vous la trouverez du côté de l'enfance. Michel Vaujour ne fait pas exception à la règle. Il n'est pas devenu un gros dur par hasard. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter de l'enfance de Michel. Retenez 3 choses. D'abord, son père lui faisait peur. Peur ! Ensuite, Michel a 4 ans, ses parents l'abandonne. Il l'abandonne à sa tante, maman Germaine, une femme formidable qui meurt d'un cancer quand Michel a 8 ans. Retour chez le père qui le terrorise. Et puis dernière chose que je veux vous raconter sur l'enfance de Michel Vaujour. Quand ses parents l'abandonnent, sa maman Germaine, pour le consoler, lui offre un chien, Rita. À partir de ce moment-là, tous les soirs, Michel s'endort contre Rita. Tous les matins, il se réveille à la caresse de sa langue sur son visage. Il l'aime, et Rita l'aime. Et puis un jour, alors qu'on l'a rendu à ses parents, il rentre de l'école, Rita n'est pas là.
On l'a donné. On va déménager dans un immeuble, on peut pas avoir de chien.
Voilà, c'est comme ça qu'on fabrique un gros dur. Alors, par où commencer l'histoire du gros dur? Je vous propose le printemps 1970. Michel a 19 ans. Il habite dans un HLM de Châlons en Champagne, près de Reims, avec sa chérie de l'époque, Zabeth, et leur petite fille, Célia. Il est 9h du matin. Ils ont passé la nuit en boîte à la Cerisée, à Reims. Alors, ils sont toujours au pieu, quoi. Et soudain, Michel glisse un œil sur le réveil. Oh merde, il est 9h, il est à la bourre, normalement il devrait être au boulot à l'usine. Alors il enfile un pantalon en vitesse, ses baskets, et pendant ce temps-là, Zabeth va pour ouvrir. Elle revient 15 secondes plus tard.
Michel, il y a des flics devant la porte. Ils veulent que j'ouvre, je fais quoi?
Police, ouvrez s'il vous plaît.
Ni une ni deux, Michel saute par la fenêtre et il se fait la malle. Qu'est-ce qu'il a fait de grave pour s'enfuir comme ça? Oh, pas grand-chose. Il a emprunté une voiture qui n'était pas à lui. Ça arrive de temps en temps. En général, il la remet à sa place au petit matin, pas vu, pas pris. Mais cette nuit, il était trop naze, il l'a garée devant chez lui. Voilà pourquoi les flics sont venus toquer à sa porte. Sa cavale, sa première cavale, dure 2 semaines. Et puis il se fait pincer. Et il se retrouve pour la première fois en prison à Châlons. Un jour, un détenu lui demande.
T'as fait quoi, toi, pour te retrouver là?
Michel lui raconte son histoire de voiture empruntée et sa petite cavale de 2 semaines.
Bon, t'inquiète pas, va. Tu vas manger quelques mois avec sursis, puis c'est tout.
Quelques mois avec sursis? Tu parles? Fin 1970, pour cette histoire de voiture empruntée, Michel prend 30 mois de prison ferme, 2 ans et demi, assorti d'une interdiction de séjour dans 21 départements pendant 5 ans. Ils ne l'ont pas loupé, et c'est ce sentiment d'injustice que Michel ressent au moment de cette première condamnation qui est la clé de toute la suite. Imaginez que le juge, ce jour-là, le condamne à, je sais pas moi, 3 mois avec sursis, ce qui est la norme pour un vol de voiture. Alors vous n'auriez peut-être jamais entendu parler de Michel Vaujour. Enfin peut-être. Et il sort avec une obsession. Récupérer sa zabette, qui évidemment ne l'a pas attendue. Elle a filé avec un autre. Mieux, elle s'est mariée. Mais il veut la reconquérir. Alors il va planquer devant chez elle, il la suit dans la rue, et puis un jour à la sortie de la boulangerie, leurs regards se croisent.
Bonjour Zabette. Bon Michel.
Et là il s'embrasse sur la bouche, et elle lui dit.
Tu sais Michel, il est très méfiant depuis que t'es sorti.
Il, c'est son mari. Elle n'est pas libre, Zabette. Le lendemain, ils font l'amour, mais elle n'est pas libre. Voilà. Michel n'abandonne pas complètement l'idée de la reconquérir, mais en attendant, il file à Fos-sur-Mer, près de Marseille, où son cousin lui a dégoté un job. Monteur voltigeur dans un complexe pétrolier. Ça consiste à assembler des poutres d'acier à 50 mètres de haut. Et pour crêcher, le cousin l'installe discrètement dans une petite caravane sur un terrain de camping. J'ai dit discrètement, parce qu'il y a un souci. Il y a un gros souci, il n'a pas le droit d'être là. Vous vous souvenez qu'il est interdit de séjour dans 21 départements pendant 5 ans. Et ça comprend les Bouches-du-Rhône. S'il se fait pincer, il y retourne. Donc Michel se fait discret. Il fait le maximum d'heures supplémentaires. Et il se constitue un petit pécule, toujours dans l'idée d'aller récupérer au plus vite sa zabette. Il l'appelle de temps en temps. Elle répond de moins en moins. Et puis un jour, elle ne répond plus du tout. J'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre sans fond. Ce que je vivais dans la solitude de ma caravane était pire que tout ce que j'avais vécu dans les cachots. Zabette était tout ce qui comptait pour moi. Alors un jour, il se dit « j'y vais, je vais la chercher ». Alors il s'achète une petite voiture et il prend la route de Chalon. À la nuit tombée, il s'arrête à Valence pour chercher un hôtel. Et là, la voiture le lâche. Il essaye de redémarrer, il essaye, et puis il descend pour la pousser et pour la garer. Et là, une voiture de police s'arrête à sa hauteur.
« Vous avez un problème, monsieur ?»« Ouais, je suis en panne. » Mais je suis presque arrivé, ça va aller.
Le policier a dû flairer chez lui une sorte de fébrilité.
Vous allez où? Moi, je vais chez ma sœur, là-bas.
Le policier descend.
Vous avez les papiers du véhicule?
Il n'a aucun papier. Le seul papier qu'il a sur lui, c'est son carnet d'interdiction de séjour à Valence, entre autres. Et là, ça va très vite. En une fraction de seconde, il prend la mauvaise décision. Il se met à courir.
Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous !
Il court, et il parvient à les semer. Je n'étais plus qu'une bête aux abois chassée par la meute. Et le voilà à nouveau en cavale. Il a laissé tous ses papiers dans la voiture. Maintenant, ils savent qui il est et d'où il vient. Et donc, il ne peut plus retourner à Fos-sur-Mer. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vole une voiture. Il roule 200 km. Il arrive à la hauteur de Mâcon. Et là, bis repetita. Vous n'allez pas le croire. Sa voiture le plante. Et là, une voiture de gendarmerie, cette fois-ci, s'arrête aimablement à sa hauteur.
Vous avez un problème, monsieur?
Et là encore, il se met à courir. Les gendarmes courent derrière. Oh putain, la sonne lui barre la route. Il plonge. Et là, il voit une camionnette de gendarmerie de l'autre côté. Il est cuit. Et il se retrouve en prison à Mâcon. 6 mois après être sorti. Dans une cellule crasseuse, à marcher d'un mur à l'autre, la tête pleine de pensées noires. L'idée de rester enfermé là-dedans, des mois et des mois, une année et plus peut-être, m'étouffait. Et là, une idée commence à faire son nez. Il a repéré des prisonniers qui chargent des camions juste à l'entrée de la prison. Des prisonniers de confiance, comme on dit, des qui se tiennent à carreau. S'ils voulaient se faire la malle, ceux-là, ça serait un jeu d'enfant. Il n'y a qu'à courir. Et donc il se dit, si j'arrive à atteindre cette cour près de l'entrée, au moment où il y a un camion, alors je pourrais m'évader. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Rien, ni personne. Seul comptait ce que je pouvais y gagner. Ma liberté. À partir de ce moment-là, il n'a plus que cette idée en tête. Et ça change tout. Il va s'évader. Il va redevenir maître de sa vie. Il ne broie plus du noir, il gamberge. Pendant 2 jours, il observe le manège des rondes des surveillants. Et aussi les miradors, leurs angles morts. Il a trouvé comment il va s'y prendre. Il va se faire passer pour l'un de ses détenus de confiance. 15 jours plus tard, il force la main d'un prisonnier de confiance. Il prend sa place. Quand le surveillant le voit débouler dans la cour, il comprend tout de suite. Il veut s'interposer, mais c'est trop tard. Michel fonce vers le camion, il se glisse entre la remorque et le portail, et à ce moment-là, derrière, les matons se mettent à défourailler. Il court, il arrive dans une forêt, il est libre. Du plus profond de moi, je suis alors que je ne renoncerai plus jamais à la liberté que je redécouvrais là. Libre? Mais où aller maintenant? La vie ne lui a pas laissé beaucoup d'occasions de se faire des amis, et surtout des amis qui acceptent d'héberger un prisonnier en cavale. Et donc il rentre chez lui, à Châlons, en volant une voiture, et il trouve refuge chez l'ex-petite amie de sa sœur, Babane, un ancien tôlard comme lui. Michel est à l'abri, mais il n'a pas un radis, et il lui en faut à tout prix parce que ça coûte de l'oseille, une cavale. Il lui faut de l'argent. Et donc un soir, avec 2 bras cassés, il se lance dans un cambriolage minable. Il ne trouve rien à voler que des timbres-poste foireux. Et le pire, c'est qu'après ce cambriolage, ils se font pincer. Retour en prison, à Châlons cette fois. Et comme Michel sort d'une évasion, on le colle direct au mitard. Le mitard, c'est le quartier disciplinaire. Seul en cellule, seul en promenade. Un plumard rivé au sol, une couverture miteuse qu'on vous donne le soir et qu'on vous enlève le matin, une assiette, un bol, des couverts en plastique et basta. Une douche par semaine. Aucun contact avec les autres prisonniers. Il a fait son petit calcul. Il va en prendre pour 5 ans. Oh oui, 5 ans minimum. Sauf s'il s'évade. Il peut le faire puisqu'il l'a déjà fait. Et donc tout de suite, il se met à gamberger. Il remarque d'abord que quand il est en promenade, seul comme un lion en cage, pendant 1 heure, personne ne vient voir ce qu'il fait. Pas un gardien. Et puis il s'aperçoit que le grillage là-haut de la cour de promenade du mitard ne tient sur les côtés que par du fil de fer rouillé. Vous voyez où il veut en venir? Hop, il ouvre le grillage. Hop, il escalade le mur. Hop, il saute dans le chemin de ronde. Faut affiner, mais ça tient la route. Là-dessus, au bout de 30 jours, on le sort du mitard et on le place en cellule avec les autres. Fin du purgatoire. Mais il a toujours son idée d'évasion en tête. Il lui manque juste une vision d'ensemble de la prison. Alors un dimanche, il va à la messe et il en profite pour regarder par la fenêtre. La porte d'entrée, ok. Ouais, là, le mur d'enceinte, ouais. Ah là, il y a un câble électrique qui longe le mur d'enceinte en haut, d'accord. Bon, ben là, j'ai un point d'accroche. Là, je peux m'appuyer. Ouais, ça passe. Il a réussi à se procurer un gros clou pour faire péter le fil de fer. Et maintenant, ben, il faut qu'il retourne au mitard. Et donc, il provoque un incident avec un surveillant et il se retrouve au mitard. Le lendemain, à midi, un gardien l'accompagne dans la cour de promenade. Il a une heure devant lui. Il sort son gros clou, il commence à s'attaquer au fil de fer, et là il s'aperçoit que ça va prendre plus de temps que prévu. Il ne finira pas aujourd'hui. Mais il s'y recolle 2 jours plus tard. Et là, ça y est, il parvient à se faufiler au-dessus du grillage qui recouvre la cour de promenade. Il escalade un poteau couvert de barbelés, ça griffe, ah, ça arrache la peau, mais il se retrouve en haut. Et là, 5, 4, 3, 2, 1, il fait un saut de 6 mètres et bam, double fracture de la cheville et du tibia. C'est râpé. Le voilà à l'hôpital de Fresnes pour 3 mois. Et après, retour au mitard de Chalon. Et quand il sort au bout d'un mois, on le colle dans une cellule dite de sécurité. D'après vous, ça va le dissuader ? La fenêtre donne sur le poste de garde, ok. Donc je scie les barreaux, j'attends que les surveillants tournent le dos, voilà, voilà. Je saute dans la cour, ouais, je traverse jusqu'au pied du grand bâtiment, là, ouais, ouais, ouais. Là, ils pourront plus me voir. J'escalade, je monte sur le toit, je vais jusqu'au bout, hop, je m'approche de la corniche, hop, je saute dans la rue. Ouais, c'est faisable. Il est à peine dans sa nouvelle cellule qu'il a déjà son plan. Tête de bourrique ! Assez vite, Michel se trouve un complice, Mad, un bagarreur pas très futé. Il s'arrange pour être placé en cellule avec lui. Ils se débrouillent tous les deux pour récupérer des lames de scie à métaux. Et ils se mettent à scier les barreaux, lentement, un peu toutes les nuits. Et à côté de ça, ils se font une corde avec des draps et une échelle de corde avec des ficelles volées à l'atelier de la prison. Et c'est parti. Hop, le surveillant tourne le dos. Hop, il retire les barreaux. Hop, il saute, lui et Matt, dans la cour. Et ensuite, ils escaladent le mur, en se hissant avec la corde de draps de fenêtre en fenêtre, d'étage en étage. Et les voilà sur le toit. Et maintenant, ils sont au sommet du fronton de la prison qui donne sur la rue. Ils n'ont plus qu'à dérouler leur échelle de corde et ils se retrouvent dehors, libres. Fin de la deuxième évasion de Michel Vaujour. Incroyable. Et après ? Mais après, c'est toujours pareil. Il faut de l'argent. Et donc, ils montent de petits braquages, Mad et lui. Un jour, à Saint-Dizier, ils débarquent dans une banque avec un pistolet en plastique. Haut les mains, peau de lapin. Le guichetier leur donne la caisse. Ils s'enfuient dans une voiture volée. Et là, ils tombent sur un barrage de gendarmes. Michel accélère, il passe en force. Ils abandonnent la voiture, ils en volent une autre et ils reprennent la route. Deuxième barrage de gendarmes. Et là encore, Michel fonce et les gendarmes tirent. Et Michel est touché, la voiture part dans le fossé. C'est fini. Retour à la prison de Chalon, la même. Et comme d'habitude, ça commence par 45 jours de mitard. Et puis retour en cellule. Et là, gros changement. Depuis son évasion par la fenêtre, il y a maintenant 2 rangées de barreaux. Et derrière, un rouleau de fil de fer barbelé coupant comme des lames de rasoir. Donc, impossible de s'arracher par la fenêtre. En revanche, par la porte. Pourquoi pas ? En cellule, Michel se retrouve avec un certain Luigi, un braqueur corse, un type du milieu. Lui, jusque-là, il n'a jamais fait partie du milieu. Ça l'impressionne un peu, le milieu. Et puis l'avantage, c'est que dans le milieu, on vous attend à l'extérieur, on vous procure des faux papiers. Et donc, il est tenté de s'associer avec ce Luigi pour sa prochaine évasion. Et puis dans sa cellule, débarque un jour un troisième bonhomme. Incroyable ! C'est un copain de Babane, Gilles. Lui, s'évader, ça ne l'intéresse pas trop, il sort dans 3 mois. Ça vaut pas la peine. Mais il est OK pour donner un coup de main. Alors voilà le plan. Je vous préviens, c'est un coup de génie. La porte de la cellule ne fait que 4 cm d'épaisseur. C'est par là qu'ils vont passer. Et donc, pour commencer, il lui faut la clé. Alors avec Gilles, ils vont fabriquer ce qu'on appelle une caroube, un double de la clé. Et comment ? Eh bien, régulièrement, au repas, on leur donne du Babybel. Vous connaissez le Babybel, hein ? C'est une pâte de fromage assez insipide qui se présente dans un écrin de cire rouge. C'est la cire qui nous intéresse. Au fil des repas, Michel se met à stocker de la cire de Babybel. Et puis un jour, dans le couloir, il voit arriver le surveillant-chef avec un trousseau de clés à la ceinture. Il s'approche, il bouscule un peu le gardien.
« Oh, excusez-moi !»
Et pendant ce temps-là, avec la cire de Babybel, il prend l'empreinte de la clé de sa cellule. Génial ! Il n'y a plus qu'à la reproduire avec un morceau de fer. Ils ont une petite lime, ils ont un bout de scie à métaux de 8 cm. Ils usinent pendant des semaines et des semaines. Et un jour, ils essayent, ça marche, ils ont la clé de leur cellule. Sauf que la serrure, évidemment, se trouve à l'extérieur de la cellule. Et donc, pour ouvrir, il faut faire un trou dans la porte. 4 cm d'épaisseur, c'est faisable. Et là, nouveau coup de génie. En prison, pour faire chauffer l'eau du Nescafé, les détenus disposent de ce qu'on appelle une bite chauffante, un thermoplongeur, une résistance qu'on plonge dans l'eau. Ils vont cramer la porte millimètre par millimètre avec une bite chauffante. Un soir de septembre 1974, c'est parti. Gilles pose le fer incandescent sur la porte. Ça grésille. Le bois commence à cramer. Et ça dure des heures et des heures. Il y a des rondes, bien sûr. Et là, ils se recollent au lit et ils font semblant de dormir. Et ils s'y remettent. Et au milieu de la nuit, un trait de lumière perce l'obscurité de la cellule. La lumière du couloir passe à travers la porte. Bingo ! Michel passe la main dans le trou. Avec la clé, il ouvre la serrure. À côté de ça, Gilles et Luigi ont fabriqué une échelle avec des morceaux de lit superposés. Et ils sortent tous les trois. Le plan est que Gilles ne s'évadera pas. Seuls Michel et Luigi partiront. Mais au dernier moment...
Michel ! Cet enfoiré de Luigi, il flippe comme un dingue. Il veut plus partir. Il veut retourner en cellule avec moi.
Et donc Michel y va seul. Et il connaît le chemin. Il s'est déjà évadé de cette prison. Il est sur le mur d'enceinte. Il va sauter. La sirène, l'évasion a été découverte. Alors il saute et le voilà dehors. En bas, normalement, il doit y avoir les copains de Luigi. Mais en vérité, il n'y a personne. Et comme les fois précédentes, Michel se retrouve seul. Mais il est libre. Il vient de signer sa troisième évasion.
Retrouvez Christophe Ondelatte, 7 jours sur 7, de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Voilà donc pour la première partie de cette histoire. La suite demain, la quatrième et la cinquième évasion, la plus célèbre, quand vous vous évadez, Michel, par hélicoptère avec la complicité de votre femme Nadine de la prison de la santé. Mais n'allons pas trop vite. D'ailleurs, quel regard est-ce que vous portez sur tout ça aujourd'hui ? Quel âge avez-vous maintenant ?
J'ai un problème avec l'âge, attendez.
51, vous êtes né.
Non, mais j'ai 66 ou 67 ans.
Hein. Ouais, dans ces eaux-là.
Mais un petit problème avec l'âge, le temps, c'est pas pareil pour moi que pour vous, quoi.
Je comprends. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur votre vie ? Est-ce que vous dites, ce type est un sale type, ou ce type est un brave type ? Ni l'un ni l'autre.
Non, je suis parti dans un chemin qui est celui-là. Je me suis trouvé, on va dire, face à des difficultés que j'ai essayé de dépasser tel que j'étais à l'époque, quoi. Mais c'est un chemin comme un autre, de difficulté en difficulté. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et si on me demande si je regrette ce chemin, non, je regrette pas, puisque si... Parce que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je sais que j'ai véritablement, hein. J'ai une véritable capacité à la joie. Je suis un mec heureux et je ne saurais pas comment je pourrais être malheureux, quoi. C'est ça le truc.
Ouais. C'est que... Vous assumez tout.
Ah ouais, sans problème.
D'ailleurs, dans le bouquin, parce que la fin de l'histoire, c'est que vous changez, que vous rencontrez une femme qui vous change, que vous pratiquez le yoga, je raconterai tout ça demain, que le yoga vous fait changer complètement d'optique, et que vous allez devenir un homme plus sage, l'âge venant aussi. Mais au début de l'histoire, vous assumez tout, vous racontez tout, vous ne vous cachez pas derrière votre petit doigt.
Non, c'est... Si j'en étais encore à me cacher derrière mon petit doigt après ce chemin-là, ben franchement, c'est que j'aurais pas beaucoup changé, quoi. Non, je vous dis, pour moi, c'est simplement un parcours difficile où j'ai été forcé d'aller un peu plus loin, chercher des forces un peu plus loin qu'on cherche d'ordinaire, quoi. Et on découvre des forces qu'on a en soi qui dépassent souvent ce que l'on peut imaginer, bien sûr. Et oui, je suis heureux. Je suis vachement heureux de vivre à cause de tout ça, parce que si j'avais pas eu ce chemin-là, je serais pas heureux comme ça. Je veux dire un truc. Quand je suis sorti, c'est vrai, j'ai été voir ma famille pour ma mère, quoi. Elle était contente que je sorte, donc redire un peu la famille, on mange, vous savez, vous voyez les gens, quoi.
Ouais.
Autour de la table, il y a 40 personnes, des gens qui sont jamais venus voir au placard, hein.
Jamais.
Ils m'ont jamais calculé, ils m'ont laissé crever, en gros, c'est ça, quoi, l'idée, hein.
Bah bon, on est face à
la mère. Pour ma mère, c'est important. Donc, c'est important pour moi, par définition. Voilà. Voilà. Et donc, j'y vais. Et pendant 2 jours, je reste là au milieu d'eux, et ça papote, et je vois que ce sont des gens où... Et je vois comment c'est, comment ça fonctionne, et franchement, ils me fatiguaient, quoi. Et quand je suis reparti, j'ai dit à ma femme, quand j'ai mis là, j'ai dit, putain, j'ai eu de la chance, elle comprenait pas. Et ouais, j'ai vraiment eu de la chance, parce que si ma vie avait pas basculé, quoi, j'aurais grandi parmi eux, je serais devenu comme eux, quoi, j'aurais devenu comme eux, j'aurais grandi dans le même milieu, les mêmes soucis, les mêmes choses. Et,
leur vie vous intéresse
ouais,
pas.
Ah non, franchement, je voyais les petitesses, les petites jalousies, les choses, toutes les prisons dans lesquelles la connerie peut nous enfermer, quoi. Voilà.
Alors, j'ai pas eu le temps de raconter en détail votre enfance. J'aurais aimé beaucoup parce que je suis convaincu que tous les gens comme vous ont à peu près la même histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, on manque d'amour.
Ouais, bah oui, ça c'est ça.
Pourtant, elle vous aimait, votre mère.
Oui, ma mère.
Mais pas votre père.
Ah non, mon père. Et moi non plus, je l'aimais pas. Voilà.
Mais votre mère vous aimait, mais elle a pas su vous choisir vous, elle l'a choisi lui.
Ouais, elle avait pas... Ma mère... Elle n'a jamais eu assez de force. Voilà, et bon, ça a toujours été comme ça, mais c'est ma mère. Voilà.
C'est cette histoire, c'est-à-dire cet abandon, la violence de votre père, c'est ça le vrai début de l'histoire de Michel Vaujour.
Je crois qu'à cause de mon père, il y a ce truc d'insoumission.
Lui
et
résister.
Puis, ensuite, c'était une quête d'amour, quoi. Une quête d'amour et... Et ma dernière véritable évasion, c'est parce que j'ai décidé
de choisir
l'amour.
Ouais,
de choisir l'amour, mais vraiment ça. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante qui soit. Pour moi, c'est le Graal. Et me dépasser à l'infini pour la femme que j'aime, c'est la seule chose qui compte.
Alors, au tout début de l'histoire, il y a donc cet emprunt de voiture, un soir de brinque, vous rentrez de boîte, vous êtes un peu feignasse, vous n'allez pas la regarer où vous l'avez prise, vous la garez devant chez vous, et pour tout ça, vous prenez 30 mois de prison ferme.
Ouais.
Vous vivez ça comme une injustice terrible.
Ouais.
Ça ne mérite pas 30 mois.
Ben non, non. Pour moi, c'était ça et la trahison de la femme avec qui j'étais à l'époque, quoi. Les deux mêlés, ça a tout disqualifié, quoi.
C'est le début de quoi? De votre colère?
Ma colère, bien sûr. Je ne demandais qu'une chose, c'était à me battre à ce moment-là, vous voyez.
Ouais.
Puisque je ne pouvais pas me massacrer qui m'avait écrasé. Je me battais un peu avec tout le monde, quoi.
Le juge, là, il ne réalise pas, le juge, quand il vous colle 30 mois,
non.
Qu'il est en train de fabriquer une bête furieuse.
Non, il ne réalise pas. Ouais, c'est totalement ça. C'était, pour moi, tout a été vraiment disqualifié. Cette période de ma vie, je me souviens, j'étais d'une naïveté effarante, quoi. Je veux dire, pour moi, toutes les valeurs du monde s'écroulaient. Tout était bidon, tout était du vent, tout est, vous voyez, je voulais écrire un livre, genre, dans ma tête, dans mes petites colères, le revers du miroir, tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire,
mais,
quoi.
Mais il vous met 2 mois avec sursis. Ce qui est le prix pour une voiture volée, franchement, et dans les années 70 et aujourd'hui, 30 mois de prison ferme pour une voiture volée, vous n'avez pas de casier à ce moment-là.
Il y en avait plusieurs quand même, parce qu'on en piquait une tous les samedis à peu près pour aller danser.
Oui, mais ils ne savaient pas, les types, vous leur mettiez à la place.
Ah oui, à peu près, ouais.
À peu près. Ils ne savaient pas, normalement.
Ouais, ouais.
Ils ne s'en étaient pas perçus. Vous n'êtes pas condamné à la prison ferme, vous n'allez pas en cabane. Il n'y a pas de Michel Vaujour, tel qu'on l'a connu après.
Oh non, oh non, non. Il n'y aurait pas eu cette dimension-là. Absolument pas. Cette dimension-là, quand on pense, quand vous parlerez peut-être des choses qui vont beaucoup, qui ont commencé à aller beaucoup plus loin, vous comprendrez que cette dimension-là, c'était à mort.
Alors, les femmes. Parce que dès le début, en fait, il y a trois femmes qui marquent votre histoire. Ouais. Le reste du temps, vous êtes en prison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes à ce moment-là. Mais il y a Zabeth, qui vous déçoit beaucoup. On va en parler dans une seconde. Ensuite, il y a Nadine, qui vous fait évader en prison de la santé. Oui. Et puis, il y a Jamila qui vous fait faire ce changement de vie et qui est votre compagne d'aujourd'hui. Elles sont au cœur de votre vie, les femmes. C'est toujours passionnel avec les femmes. C'est à fond.
C'est à fond.
C'est pas une petite amourette comme ça.
Non.
Zabeth, elle vous a déçu.
Oui. Bon, c'était un amour d'adolescent, vous voyez ce que je veux dire ? C'était un peu... Pour moi, dans ma tête, c'était amour toujours. C'est ça, vous voyez. Ouais. Bon.
Quand vous regardez avec du recul aujourd'hui.
Oui, quand je regarde du recul, ça me fait
sourire. Parce que c'est
à
cause d'elle que vous faites
passer. Ça me fait sourire. Mais aujourd'hui, ça me fait sourire. Mais à l'époque, ça ne me faisait pas sourire du tout.
J'imagine. Votre deuxième séjour en prison, c'est la première évasion. Oui. Bon, elle est toute simple, celle-là. C'est la moins spectaculaire. Au fond, personne ne se méfie parce que vous n'avez pas de passé. Et donc, vous arrivez à vous faufiler entre le camion et la porte et puis vous courez, quoi.
Voilà.
Tous ceux qui ne s'évadent pas, ceux qui restent à l'intérieur, vous en pensez quoi ? Ceux qui essayent pas ? C'est des mauviettes, c'est des lâches, c'est...
Je pensais que j'étais pas comme eux. Je comprenais pas. Je pouvais pas vraiment rester enfermé. Je comprenais pas. C'était la première peine de prison que j'ai faite, ces 30 mois que vous avez évoqués il y a quelques instants, m'a marqué, m'a énormément marqué. Tant de par les conditions dans lesquelles j'ai été condamné à ces 30 mois que la façon dont j'ai vécu ces 30 mois, c'était très dur, vraiment très dur, voilà.
Mais eux, ils restent. Et vous barrez.
Oui, parce que mon caractère est comme ça, quoi. Mon caractère est que s'il n'accepte pas quelque chose, j'y fais face, quoi. Voilà.
Alors, quand vous vous évadez la deuxième fois de la prison de Chalon, avec Mad, avec d'abord cette première tentative où vous pétez la cheville et le tibia, on voit que le piège de l'évasion, c'est l'après. Ouais. Sortir est une chose, mais dès qu'on est en bas du mur et qu'autour, on ne sait pas où aller, vous n'avez pas d'amis à ce moment-là, mais en vérité, vous n'en avez pas parce que vous avez passé votre temps en prison.
Oui.
Il n'y a personne que vous pouvez appeler.
Non, pas vraiment. On ne peut pas... C'était trop lourd pour eux. C'était trop lourd, les amis que j'avais, c'est ceux qui avaient fait des crosses, des choses comme ça, des concours où je courais, quoi.
Oui.
Des amis comme ça, vous voyez, des trucs d'école.
Des gens clean.
Ouais, mais pas vraiment des amis tels qu'on ouvre la porte, on est dans la merde, il n'y a pas de problème, entre. Voilà, ça n'existait pas pour moi, ça.
Ça a toujours été votre point faible, ça. Hein. Une fois que vous êtes dehors, à quatre reprises, il n'y a rien de prévu. La quatrième fois, normalement, il devrait, il n'y a pas.
Oui, il n'y a pas.
C'est le point faible de vos évasions.
Qu'est-ce que vous appelez la quatrième ? Oui, c'est avec le G, ça.
Oui.
Oui, bien sûr, il n'y a pas. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'ensuite, je me suis organisé. J'ai parfaitement compris ce que vous évoquez là. À l'époque, j'ai parfaitement compris ça. Un petit peu plus tard, après cette évasion-là, j'ai compris que si j'avais les capacités pour m'évader, je n'avais pas les moyens pour tenir l'évasion. Donc, pendant 4 ans, je me suis donné un peu les moyens. J'ai tout appris, l'anglais, l'espagnol, j'ai appris à me discipliner, m'autodiscipliner, etc. Voilà, c'est ça, et tout.
Après, on verra ça demain. Mais jusque-là,
c'est tout à fait
c'est le point faible de votre système. Vous êtes un génie de l'évasion, mais vous n'avez rien prévu dehors, quoi. Si ce n'est courir.
Et moi, ce qui comptait, c'était de ne plus être en prison. C'était peut-être plus ne plus être en prison qu'aller vers quelque chose.
Alors, la troisième évasion, que moi j'appelle l'évasion Babybel, avec en parallèle la bite chauffante.
Ouais.
Je la trouve magnifique, celle-là. Est-ce que vous êtes fier de cette évasion ? On est d'accord, c'est la plus belle.
C'était du boulot très artisanal, mais on pourrait dire que c'est du beau boulot.
Ouais.
C'était du beau boulot. C'est une somme de boulot que vous n'imaginez pas. C'est des nuits de surveillance, pour la maîtrise des rondes, c'est tout un système de mise au point, de réflexion, parce que c'est énorme ce qu'il y a derrière ce que vous racontez. Le boulot qu'il y a pour aboutir à ça, et c'est quelque chose d'énorme, vous voyez.
Il faut trouver le bout de fer. Il faut trouver la lime.
Il faut déjà trouver l'idée.
Oui.
En fait, c'est que des problèmes, les uns derrière les autres. Et vous prenez les problèmes un par un, et vous essayez de les résoudre, voilà. Mais en essayant de résoudre ce problème, va s'en poser d'autres, etc. Et on recommence, et on recommence, et on recommence sans arrêt. Mais...
Il y a un truc que j'ai pas raconté, peut-être qu'on peut le raconter oui. maintenant, c'est comment vous identifiez votre clé dans le trousseau que le surveillant a à la serrure,
oh ben,
à la ceinture, pardon.
Vous savez, le surveillant ouvre la porte au moins trois fois par jour où je vois la clé quand je reviens de promenade. Je regarde la clé. Ici, là, je peux vous la dessiner, la clé, sans problème. Là.
Cette clé-là, vous pouvez me la dessiner.
Ouais, vous me donnez un papier, je vous la dessine tout de suite.
C'est-à-dire le crantage de la clé.
Oui, bien sûr, le crantage de la pied avec les côtes, etc. Il n'y a pas de problème.
Donc vous la photographiez tous les jours.
J'ai l'œil, j'ai ce que vous appelez l'œil américain. Quoi. Flof.
Flof.
Voilà.
Et donc vous, cette clé, vous la prenez par cœur.
10 fois, 50 fois, 100 fois, je la regarde. Je la photographie, je la photographie. Gilles fait pareil. Je fais le dessin. Dès que je la photographie, je rentre dessus, je fais le dessin. Il la photographie, il fait le dessin. On compare, on regarde, on affine tous les jours, une fois, deux fois. Et puis à la fin, là, ça commence à se ressembler quand même pas mal.
Et puis il y a l'empreinte de Babybel à ce
voilà.
moment-là.
Voilà, et le Babybel, c'est la confirmation.
C'est juste la confirmation.
Dans la trousse, dans le paquet de clés qu'il y a, il a une dizaine de clés à la ceinture, des grandes clés lourdes, ouais. etc. Et ça se balance à la ceinture. Je bouscule un peu, mais je l'ai à l'œil. Je prends, et voilà. Et voilà, et on revient, c'est tout à fait ça, c'est la bonne. Et on travaille dessus, quoi.
Luigi, un, il doit partir avec vous.
Ouais.
Il se débine au dernier moment.
Ouais.
Deux, il vous a dit qu'il y aura des mecs dehors qui nous attendent.
Ouais.
Il n'y a strictement personne.
Non.
C'est un baltringue. Vous lui en voulez
c'est une truffe.
C'est une truffe. Vous lui en voulez sur le moment.
On va dire que c'est un mec plein de vent, quoi. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose dans la vie, c'est pas la peine. Mais on ne dit pas des choses fausses pour se gonfler et puis... Il n'y a rien derrière. On est ce qu'on est, c'est tout. Tout est honorable. Il n'y a pas de souci, hein, aucun. Mais lui, plus c'est dangereux. C'est ce que j'appelle c'est ce que j'appelais, quand j'étais dans ce monde-là, des planches pourries, quoi.
Ouais.
Vous appuyez dessus, ça craque, ouais. et vous éclatez la gueule, quoi.
Vous avez réglé vos comptes avec lui un jour ou pas? Vous l'avez
non,
jamais recroisé?
Non, même pas. C'est comme les mauvais chevaux, ça ne change pas, ça.
Ouais.
On est comme ça quand on est petit, on reste quand on est grand. Hein. Pas de souci.
Tous les gens qu'on voit apparaître dans votre histoire, Babane, Gilles,
ouais.
vous les avez revus depuis que vous êtes sorti?
Babane, j'ai revu, ben Gilles, non, Gilles est mort.
Gilles est mort.
Mais, oui, Babane, j'ai revu. Tenez, là, j'ai reçu une lettre aujourd'hui de. Je ne sais pas qui c'est une dame qui m'écrit, qui dit qu'elle a grandi avec moi, que je ne sais pas qui c'est. Et. Mais elle me rappelle le quartier où j'ai grandi avec mes parents quand je suis arrivé à Chalon, quoi. Elle me parle les boudons ouais. de cuir, les machins, tout ça. Et voilà. C'est...
Vous êtes plus connu que vous ne connaissez les gens.
Ouais, mais j'aime bien les gens.
Merci beaucoup, Michel Vaujour, pour le récit de cette première partie. On va se retrouver demain pour la suite. Je vais raconter la quatrième invasion que j'adore, au savon, avec un pistolet fabriqué avec du savon. La cinquième invasion, c'est Nadine qui vient vous chercher en hélico à la prison de la santé. On va raconter les quartiers de haute sécurité. Vous y avez passé 17 ans. C'était des machines à broyer les vies. Et ils ont bien failli vous détruire. Et vous vous en êtes sorti par le yoga. Et ça, je pense que ça va surprendre beaucoup de monde. Le gros dur qui est devant moi s'est mis au yoga et ça l'a sauvé. C'est l'épisode de demain, 14h. Bon après-midi à vous tous, à demain.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.